Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby que vous pouvez écouter chaque semaine sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, l'inamovible troisième ligne de l'équipe, Emmanuel Arinardoki. Salut Emmanuel.
Bonjour tout le monde.
Pour l'accompagner, les journalistes du Midi Olympique, Arnaud Bordelais et Pierre-Laurent Gou. Salut les gars.
Salut tout le monde.
Bonjour à tous.
Au programme de ce numéro, l'équipe de France, alors que se profilent trois matchs contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Nous débuterons par un focus sur le poste d'arrière. Melvin Jaminet blessé, qui pour le remplacer? Dulin? Ah bah non, il n'est pas là non plus. Qui d'autre pour suppléer l'ancien joueur de l'USAP? On en débat. Nous évoquerons ensuite le capitana avec le choix du staff de le confier à Antoine Dupont plutôt qu'à Charles Olivon. Est-ce un choix logique selon vous? Et pour finir, place au top 14 avec Montpellier, seulement 11e. Qui reste sur 4 défaites de rang. Faut-il s'inquiéter pour le champion de France en titre? Et même, allons plus loin, faut-il changer de manager? Si vous voulez le savoir, restez avec nous jusqu'à la fin. Pour ne rien rater, abonnez-vous également à ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Acast. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone. Allez, Arrêt Buffet, c'est parti! Qui pour remplacer Melvin Jaminet? On le sait, l'arrière du 15 de France est blessé à la cheville gauche mi-octobre et forfait pour cette Coupe d'automne des Nations. Trois joueurs ont été convoqués pour jouer au poste de numéro 15, Thomas Ramos, Anthony Boutier et Romain Buros, remplacés depuis par Louis Lebrun. À noter au passage l'absence de Brice Dulin, l'arrière du Stade Rochelais. Bref, le choix logique voudrait que Ramos occupe ce poste. Or, depuis le début de la saison, il a essentiellement été utilisé au poste d'ouvreur à Toulouse. Faut-il le remettre à l'arrière? On a vu Jalibert mardi avec le 15 dans le dos à l'entraînement. Mercredi, c'était Ramos. Bref, messieurs, faites vos jeux. Qui à l'arrière? Emmanuel.
Ben écoutez, pour moi, la question ne se pose pas. Hein, parce que Thomas Ramos sera sur le terrain. Et on pourrait même peut-être se poser la question de savoir s'il ne pourrait pas attaquer le numéro 10. Mais ça, c'est un autre sujet.
Eh ben oui, mais ça va être le sujet.
Moi, je le mettrais bien sûr en 15, hein, parce que voilà, il fait preuve quand même d'une force de caractère assez énorme. À chaque fois qu'il y a eu de la pression, notamment avec son club lors des finales, c'est lui qui a porté le numéro 10. Il a remplacé Romain Tamac avec une aisance assez incroyable. Il a permis au Stade Toulousain de remporter les deux dernières finales jouées. Et pour moi, voilà, c'est vraiment le patron de la ligne de trois quarts. Qui pourrait être aligné avec l'équipe de France lors de cette retournée.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Je suis entièrement d'accord. Et je vais même aller un peu plus loin, toujours plus, Emmanuel va dire. Mais moi j'arrive, je me pose vraiment même la question de savoir ce qui se passe parfois entre Fabien Galthié et Thomas Ramos. Parce que je trouve Thomas Ramos vraiment constant. Il excelle, c'est un joueur intelligent qui est capable de s'adapter. Il a une polyvalence incroyable. Alors oui, si l'on en croit l'affect que Fabien Galthié porte à cette polyvalence, on peut comprendre pourquoi Thomas Ramos est plus souvent remplaçant que titulaire. On peut éventuellement penser que Melvin Jaminet, par la qualité de et la précision de son jeu au pied, devance Thomas Ramos. Mais enfin voilà, si j'étais sélectionneur de l'équipe de France, pour moi Thomas Ramos c'est probablement un des premiers noms que je coucherais sur la feuille de match. Et ça. Sans avoir à attendre qu'il y ait des blessés à son poste.
Oui, mais il ne faut pas occulter le fait qu'en fait, Thomas Ramos était un peu plein après la Coupe du Monde 2019 de son statut en équipe de France. Arnaud n'ose pas le dire, donc comme je suis un peu plus âgé que lui, je vais le dire. Voilà, du fait, il y a eu une sorte de un quiproquo, mais un franc quiproquo. Alors, ce n'est pas un fossé, mais il y a une petite fissure dans la relation sportive entre Fabien Galthié et Thomas Ramos, et qui, depuis... Depuis, Fabien Galthié utilise Thomas Ramos avec parcimonie, malgré le fait, comme le dit Manol, que chaque fois que Thomas Ramos a eu besoin de suppléer Romain Tamac, il l'a fait avec brio, il le fait encore là en ce début de saison, qu'à l'arrière, autrement, c'est le choix numéro 1 de Hugo Mola au Stade Toulousain, que c'est un excellent buteur. Il a plein de qualités. Mais le relationnel compte dans une relation entre un joueur et un entraîné. Et je crois que voilà, le problème est là. Alors, on peut penser, je vais essayer de faire court, mais on peut penser que là, Fabien Galthié a mis de l'eau dans son vin en ne prenant pas dans le groupe Brice Dulin, autre joueur à fort caractère. Et c'est vrai que là, avec la blessure de Jaminet, on voit mal comment Thomas Ramos ne pourrait pas avoir le 15 dans le dos face à l'Australie.
Ah mais si on va par là, Emmanuel Arnaud de Kier n'a jamais joué en équipe de France, parce que si est-ce qu'on parle de caractère et de mecs qui pouvait éventuellement la ramener quand il n'était pas titulaire. Enfin, moi, je trouve ça dingue que, voilà, ou alors on veut que des joueurs aseptisés, des moutons, et je trouve ça un peu dommage.
Est-ce que la...
Je te rejoins, Arnaud. Je crois qu'on a justement besoin de joueurs comme ça, parce que c'est des joueurs qui amènent quelque chose, qui ont cette gagne aussi en eux, qui rassurent aussi autour d'eux, qui amènent cette confiance. Alors certes, il a eu peut-être par moment des déclarations, mais c'est des déclarations de compétiteurs. Ça n'a jamais nui au groupe. Il ne s'est jamais pris ouvertement non plus au choix de Fabien Galthié. Il râlait juste de ne pas jouer. Et encore heureux que quand un sportif de haut niveau et un compétiteur, ben on se satisfasse pas d'un statut de remplaçant ou de ne pas être dans le groupe. Parce que sinon, il faut faire autre chose. Voilà. Et puis là, avec la tournée qui arrive et vu l'hécatombe de blessés, je pense que Fabien Galthié ne devrait pas trop faire la fine bouche. Il va devoir faire plus que compter sur un joueur comme Thomas Ramos.
Est-ce que la clé n'est pas aussi à chercher du côté de Romain Ntamack ? Je m'explique, Romain Ntamack n'a plus joué depuis un bon bout de temps. Thomas Ramos a pris sa place à Toulouse à l'ouverture. Est-ce qu'on est sûr à 100% que Romain Ntamack pourra jouer en équipe de France ? S'il peut jouer, il n'y a pas de problème, Thomas Ramos va aller jouer derrière. Si Romain Ntamack est obligé d'être sur le flanc, on met qui ? On met Ramos à sa place, comme c'est le cas à Toulouse, ou on met Jalibert et on met Ramos derrière ? C'est un no-brainer selon vous, ou il y a quand même certaines choses à encore affiner ?
Alors, je vais parler en premier parce que lundi soir, j'ai eu la chance d'être pendant un long moment à côté de Romain Ntamack, donc j'ai des nouvelles toutes fraîches. Pendant que Emmanuel et Arnaud traînaient au buffet à l'apéro des Oscars du Midi Olympique, moi je travaillais rigoureusement. Et en fait, Romain Ntamack se sent prêt, il l'a dit aussi publiquement. Il a la certitude, a priori, d'après mes informations, parce que c'est vrai qu'on va faire attention aux déclats qui peuvent être off ou on, de rester dans le groupe France là, ces deux prochains week-ends. Donc, le premier week-end, ça a été annoncé officiellement, et le week-end prochain, de pouvoir se préparer afin d'être prêt pour France-Australie. De même, il faut se souvenir que Fabien Galthié est très conservateur dans ses choix, et quand un titulaire postule, il joue.
Il n'aurait pas fallu le libérer ce week-end pour qu'il aille jouer un peu contre Bayonne, là, Arnaud ?
Moi, je ne pense pas. Enfin, à l'arrière, on aurait peut-être mieux demander poser cette question à Emmanuel, mais je ne crois pas. Enfin, il a pas été arrêté 6 mois non plus, hein, Romain Ntamack. Hein. Il a raté quelques matchs, c'est pas la fin du monde. C'est un garçon qui est extrêmement sérieux, qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à la façon dont il dort. Enfin, c'est le joueur 3.0. Donc, franchement, aucune inquiétude si Romain Ntamack se dit être prêt pour défier l'Australie. Je pense que Fabien Galthié va le voir sur les 2 semaines de travail. Et ce n'est pas en allant jouer 40, 50, 60 minutes avec le Stade Toulousain qui changeront quelque chose à la qualité de sa performance face à l'Australie. Et pour répondre à ta question, non, voilà, comme le dit Pierre-Laurent, Fabien Galthié est un conservateur. Romain Ntamack est apte, il jouera contre l'Australie, point barre.
Risque pas de manquer d'un peu de rythme, Emmanuel, Romain Ntamack ? C'est que l'Australie, quand même, on ne joue pas une équipe de seconde zone, quand même.
Oui, mais par rapport à ta question, le fait qu'il soit déjà dans le groupe, le fait de l'envoyer jouer ce week-end à Bayonne, je ne pense pas que ça le mettrait dans les meilleures dispositions parce que je pense qu'il se dirait qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Et peut-être même jouer en demi-teinte, sachant que derrière, il y a la tournée. Donc, ce n'est pas vraiment un cadeau. Je pense que la meilleure façon de le préserver et de le préparer, justement, c'est de le garder à l'équipe de France, de réaliser des entraînements à haute intensité. Et puis voilà, Fabien Galthié se fera son idée. À partir du moment où il est apte, voilà, moi aussi, je pense que Fabien va le reconduire et va le faire débuter. Parce que de toute façon, un joueur comme ça qui revient, dans tous les cas, il faut absolument le mettre titulaire. Parce que si tu le mets remplaçant et qu'il rentre et qu'il ressent une douleur ou qu'il se blesse, c'est le pire des cas. Donc, le meilleur moyen, justement, c'est de le faire commencer. Et puis, voilà, si ça ne va pas, de le faire sortir. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer.
Sur le manque de rythme, Adrien, je vais reprendre, quand tu en as parlé, j'ai mes revenus, un passage de ma conversation avec Romain Ntamack. Il a dit… Oui, peut-être que je vais manquer de rythme. Eh ben, le sélectionneur, à la 50e, me sortira. Il y a suffisamment de monde sur le banc pour faire la maille.
Il y a Jalibert derrière qui exactement. Qui en voudra, qui en aura envie de rentrer sur ce terrain. Très bien, messieurs. Super. J'ai l'impression que c'est clair. On sait qui va jouer à l'ouverture. On sait qui va jouer à l'arrière. On attendra la semaine prochaine pour détailler encore plus cette composition d'équipe qui nous attend contre l'Australie le 5 novembre, qui sera le premier des trois matchs de cette Coupe d'automne des Nations. Ensuite, il y aura
La Coupe d'automne des Nations, c'était seulement l'année du Covid. Il n'y a plus de trophée en jeu. L'Automne Nation Series. Voilà.
Et comment on le traduit alors, chef?
Voilà. Tournée la série d'automne des Nations.
Ouais, voilà, tournée du mois de novembre, à la bonne époque d'Imanol.
Voilà.
La célèbre tournée de novembre.
Trop de marketing dans tous ces noms. On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, au sujet numéro 2. On va évoquer le capitanat. Il sera le capitaine du 15 de France lors des trois matchs à venir. Le communiqué de la Fédération française est tombé lundi dernier et c'est bien Antoine Dupont qui a été choisi et non Charles Olivon. Alors messieurs, je vais y aller tout simplement. Est-ce que c'est un choix logique selon vous, Emmanuel?
Pour commencer, il va falloir l'appeler déjà capitaine trophée. Parce que je ne sais pas s'il y a un autre capitaine dans le monde qui rafle autant de trophées que lui. Je pense même qu'il se fait brancher sacrément à Marcoussi. Ils ont réservé, je crois, une petite salle pour qu'il entrepose tous ses trophées parce qu'il ne sait plus où les mettre.
Pour notre plus grand bonheur.
C'est mérité. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pour moi, on ne pouvait pas changer de capitaine parce que, outre le fait que ce soit le meilleur joueur du monde, je pense qu'il a évolué dans son rôle de capitaine. Je pense qu'il est plus à l'aise dans ce rôle. Il n'était peut-être pas au début, je n'étais pas forcément pour. Je me disais que c'était lui rajouter une pression dont il n'avait pas besoin, puisqu'il était quand même très très bon footballistiquement. Et il s'avère que de lui rajouter cette pression, ça l'a bonifié. Donc, et puis surtout c'est le capitaine de la France qui gagne. Et ça, c'est important. Voilà, parce qu'ils ont gagné le Grand Chelem, c'est Antoine qui était capitaine. Donc, il incarne aussi la France qui gagne. Et que ce soit pour lui, pour ses coéquipiers surtout, et puis pour les adversaires, voilà, c'est un signe fort. Maintenant, il n'est pas tout seul. Hein. Dans cette équipe, il y a d'autres capitaines. Il y a Grégory Aldrit, il y a Anthony Gelonge aussi qui avait fait une super tournée contre l'Australie. Il y a Charles Olivon qui va amener toute son expérience et son leadership. Il y a Gaël Ficou. Voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs qui vont l'aider dans ce rôle. Je crois qu'il s'appuie énormément aussi sur tous ces joueurs, et il y a un mode quand même participatif. Donc aujourd'hui, on a la chance aussi en équipe de France d'avoir des leaders qui sont établis.
Il y a juste, moi, il y a quand même un petit point qui m'interpelle, et Fabien Galthié est suffisamment attaché à la sémantique pour avoir envoyé un message. C'est que dans le communiqué de presse qui confirme le capitanat d'Antoine Dupont, il précise bien que c'est uniquement pour cette tournée de novembre. C'est-à-dire pour ces trois prochains matchs face à l'Australie, face à l'Afrique du Sud, face au Japon. Est-ce que ça veut dire qu'il se réserve le droit de faire machine arrière si toutefois il venait à se passer un truc particulier au cours de cette tournée? Est-ce que c'est uniquement pour ménager la susceptibilité de Charles Olivon en lui laissant penser qu'il peut redevenir le capitaine dans la perspective du mondial qui se jouera l'année prochaine, puisqu'entre-temps, on va disputer le tournoi à destination? En fait, voilà, on a posé la question lundi soir aux Oscar Midol, ou encore Antoine Dupont a reçu pour la quatrième année consécutive l'Oscar d'or du meilleur joueur français et l'Oscar monde du meilleur joueur international.
Capitaine trophée.
Exactement, capitaine trophée, comme dit Emmanuel. Donc voilà, est-ce que c'est juste pour ménager la susceptibilité de Charles Olivon? Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. On va creuser, évidemment, on va poser la question au sélectionneur. Fabien, si tu nous écoutes, attends-toi à cette question, parce que voilà, on sait que Fabien Galthié s'attache aux éléments de langage. Hein, on le voit bien dans ses conférences de presse depuis sa prise de fonction. On le voit avec lui, avec ses joueurs, avec Raphaël Ibanez, où à longueur de conférences de presse, on voit les mêmes éléments de langage fleurir. Hein, que ce soit chez un pilier, chez un trois-quarts centre, chez un sélectionneur, chez un entraîneur. Donc, voilà, je suis convaincu que c'est un message bien particulier qu'il a souhaité envoyer, et ça laisse augurer quelques questions durant ces trois semaines à venir.
Pierre-Laurent, comment t'as interprété ça, toi?
Oui, ce que dit Arnaud, parce qu'on a alors pour tout te dire, Adrien, c'est La question du Capitana fait l'objet du dossier d'ouverture du journal de ce vendredi, la 2-3. Et avec Arnaud, on y a bossé dessus. Et je sais très bien qu'il a interrogé, il a profité, il n'a pas traîné tout le temps au bar avec Imanol. Il a laissé Imanol tout seul au bar. Et après, dans la nuit parisienne, il a posé la question aux bonnes personnes. Et notamment à un moment où on était tous les deux avec une certaine personne. Et c'est vrai que son interrogation est légitime parce que... on voit bien que même si pour nous trois, le choix d'Antoine Dupont comme capitaine et Imanol a raison d'insister sur le fait que c'est le capitaine de la France qui gagne, paraît naturel, logique, simple, il a fallu ménager les susceptibilités parce que Charles Olivon est son aîné, et là Imanol pourrait mieux en parler que nous, que ça a été le premier capitaine de Fabien Galthié, qu'il a perdu le capitanat sur blessure et pas pour une méforme sportive, que depuis sa blessure, en fait, Fabien Galthié avait choisi de ne pas trancher. C'est-à-dire que, rappelez-vous, donc pendant le tournoi du Grand Chelem, Charles Olivon ne pouvait pas postuler à l'équipe de France. Puis au Japon, pour la tournée estivale, le sélectionneur avait choisi de mettre Antoine Dupont au repos. Et donc, c'était la première fois qu'il avait à trancher, à établir une hiérarchie entre les deux hommes. Et même si le choix paraissait simple, il fallait ménager la susceptibilité, la cohésion du groupe, tout ça. Mais même si voilà, Antoine fait l'unanimité, il a raison. Et Imanol révélait un scoop à nos auditeurs. Et il a juste oublié le sixième membre du comité des sages qu'a mis en place Fabien Galthié. Et Arnaud, qui le connaît sur le bout des ongles, va oublier la sixième personne qui est aussi considérée comme un vice-capitaine. Je lui laisse la parole.
Le sixième, est-ce qu'il a dit Gaël Ficou? C'est Antoine Dupont, le dernier.
Non, Julien Marchand.
Julien Marchand, le talonneur, effectivement.
Julien Marchand, j'avais même pas besoin de le présenter. Fer de lance.
Accessoirement, Toulousain, comme Antoine Dupont.
Et accessoirement, en train de monter en puissance assez incroyablement dans le registre du jeu au sol. Et on sait qu'au niveau international, c'est quand même très, très important et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à ce niveau-là.
Tu l'entends, toi, Imanol, ce côté faut ménager les susceptibilités. Toi, quand tu étais en équipe de France, tu as vu ce genre de scénario se produire ou pas? Et comment tu l'interprètes?
Mais il l'a connu en 2009.
Bah écoutez, moi, on ne m'a jamais épargné. J'étais très susceptible en plus, donc j'ai pris sur moi.
Non, mais en 2009, tu as connu ça.
J'ai pris sur moi avec plus ou moins de réussite. Oui, c'est toujours compliqué parce que on s'attache aussi à ce statut. Maintenant, on a vu que le capitaine, l'équipe de France, il était quand même un peu en mode participatif. Charles a quand même insufflé le renouveau de l'équipe de France aussi, de remettre l'équipe de France au centre des débats, de la méritocratie, de lever la tête et d'être fier de jouer pour l'équipe de France, vraiment de se donner pour ce maillot, même quand on jouait moins bien ou quand on ne gagnait pas. C'est vraiment le joueur qui a permis, avec tous les autres derrière, de redonner des couleurs à l'équipe de France. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense que si Fabien Galthié a dit ça, c'est que, comme on l'a évoqué, dans un premier temps, Charles, d'abord, il se doit de retrouver ce niveau international, de regagner sa place. Et c'est pour ça que Fabien Galthié peut-être laisse une lucarne ouverte pour pas qu'il se braque, ou en tout cas qu'il soit dans les meilleures dispositions pour aussi amener ce leadership.
Mais Emmanuel, est-ce que tu te souviens de la façon dont ça s'est passé en 2009? Voilà, je rappelle le contexte. L'équipe de France part en tournée en Nouvelle-Zélande. Le capitaine est alors Lionel Nallet. Le sélectionneur de l'époque, Marc Vivremont, décide de le laisser au repos. Nomme Thierry Dussautoir capitaine pour cette tournée. L'équipe de France gagne en Nouvelle-Zélande. Et puis, sur la tournée suivante, on apprend que finalement, le capitana passe définitivement au bras de Thierry Dussautoir. Est-ce que tu te souviens, par exemple, comment ça avait été géré? Est-ce que Lionel Nallet en avait pris ombrage? J'ai pas souvenir de ça, au contraire.
Bah, à l'époque, c'était pas géré. On gérait pas ce genre de situation. C'était une décision unilatérale, comme on dit. Et personne n'en avait été informé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même différent. Il y a un peu ce comité des sages aussi qui décide, ou en tout cas qui valide la nomination d'un capitaine. Et je crois que c'est bien justement par rapport aux susceptibilités des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, ou en tout cas de choses qui viennent contrarier la préparation des matchs. Non, à l'époque, c'était un peu différent. Ouais. Donc, on apprenait les nouvelles comme vous, soit dans la presse, soit, soit devant le fait accompli et on faisait avec.
Mais Lionel Nallet l'avait bien pris. Enfin, j'ai pas souvenir de d'être là de voix ou quoi que ce soit.
Bah, il faudrait lui poser la question, mais après Lionel Nallet, c'est un taiseux et je pense que par respect pour le groupe, il avait rien dit, mais je pense qu'il en pensait pas moins.
Quand même, tu vois.
Ce qui laisse augurer peut-être une réaction aussi de Charles Olivon, de façon positive, hein, peut-être. Hein, peut-être que ça va le faire réagir pour regagner encore plus rapidement sa place au sein de cette troisième ligne de l'équipe de France.
Oui. Après, si on va plus loin, ce serait quand même malheureux derrière de retirer le capitanat à Antoine Dupont. Si la tournée se passe bien là, ça peut être aussi vu comme un déclassement pour Dupont. Donc, il ne faudrait pas non plus que ça crée quelque chose, un précédent, et que ce soit mal vécu par le meilleur joueur du monde et de l'équipe de France.
Non, mais je pense que quand Emmanuel parle de Lucarne, il a raison, c'est si jamais il se blessait. Oui, voilà. Tu peux pas dire à Charles Olivon, bon, tu vas redevenir complètement un simple soldat. Il se murmure, tu vois, on a parlé tout d'abord du poste de 15, de savoir qui allait jouer, et en 10 aussi. On peut aussi t'affirmer, Adrien, que Charles Olivon débutera face à l'Australie en tant que troisième miel, sûrement. Et c'est aussi lui mettre, c'était aussi, et là, il a la bonne excuse, une excuse légitime, Fabien Galthié, c'était lui mettre beaucoup de pression sur son véritable retour, étant entendu que les tests au Japon avaient ce côté un peu exotique, avec une équipe bis, alors que là, ça sera le 15 majeur de l'équipe de France. Et on n'est pas à l'abri, on ne le souhaite pas, on est tous en train de brûler des cierges à Lourdes, mais d'une blessure d'Antoine Dupont. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi ménager la susceptibilité de Charles dans ce cas-là, pour qu'il puisse reprendre le flambeau le plus facilement possible, si jamais.
J'aime bien quand tu viens, Pierre-Laurent, tu as des petites infos et ça me plaît dans le podcast, tu vois. J'imagine que nos auditeurs aussi apprécient ces petites infos que tu nous distilles.
Ah, si tu as bien écouté quand même Emmanuel, il a oui, des oui, petites infos sur Lionel Nallet.
Sur Lionel Nallet, bien sûr.
Rien n'était sorti. Hein.
Moi, j'en ai une sur Emmanuel, il ne jouera pas contre l'Australie.
Allez, chacun y va sa propre info. On va voir si vous en avez sur le top 14, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne sur notre dernière partie et on va parler de Montpellier. Montpellier reste sur 4 défaites consécutives en top 14. Seulement 11e, le MHR s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe dans l'Hérault? Une mauvaise passe, un mal plus profond. Messieurs, on a envie de savoir, et là, si vous avez des infos aussi, on est preneurs. Qu'est-ce qui se passe du côté de Montpellier? Allez, Pierlo, commence cette fois-ci.
Alors, bah, c'est un peu le mal du champion. C'est pas mal de blessures. C'est aussi, Montpellier n'était pas prédestiné à être champion. Donc, il faut vraiment digérer ça. Pour en avoir discuté aussi cette semaine avec les intéressés, je pense qu'ils ratent le coche contre Toulouse à domicile, parce qu'ils font un vrai bon match contre Toulouse à domicile et ils perdent. Donc, du coup, dans le sport professionnel, la limite entre la confiance et le doute est très mince. Et du coup, là, un certain doute s'est insinué chez eux. Voilà, le retour de Paul Willemse n'a pas été super flamboyant en deuxième ligne. Tout ça fait que Montpellier est un peu à la ramasse et se retrouve à faire un match véritablement charnière face au Stade français, où là, on va voir dans quelle partie ils vont basculer du championnat et quelle va être leur saison, s'ils peuvent continuer à viser à court terme une place dans le top 6 ou alors à devoir batailler et à se méfier de la ligne rouge derrière, parce que ça revient, c'est très serré ce top 14.
Emmanuel, ouais, t'as eu toi ouais, aussi des... Tu peux t'entendre cette décompression un petit peu après avoir été champion, ça arrive à se remettre dedans, etc.
C'est pas tellement cette décompression, parce qu'ils avaient quand même bien commencé. Ce qui peut être inquiétant, ça n'est pas aujourd'hui, mais ça va l'être si le prochain match n'est pas gagné. C'est de tomber dans une spirale négative comme ça. De se dire finalement on a perdu des matchs, mais on n'était pas loin. Ça, c'est le pire des cas, parce que justement les joueurs vont pas se remettre en question et ils vont pas prendre le taureau par les cornes pour justement inverser cette tendance. Moi, j'ai toujours dit qu'à partir du moment où tu perds déjà 3 matchs d'affilée, bon, en général, il fallait au moins qu'il y ait une réaction. Donc, on l'attend, cette réaction. Là, ça fait 4, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà, on attend quand même de voir de cette équipe quand même, qui est championne, de réagir et puis de renouer avec la victoire.
Le Stade français, c'est la, C'est la proie idéale.
Doucement, le Stade français est deuxième.
C'est pour ça que je voulais te demander, Arnaud.
Non, mais attention,
Arnaud,
non. Deuxième non, c'est pas le Stade la proie français, idéale, mais... au contraire, c'est le match bon. Piège pour Montpellier, parce que voilà. Le Stade français, quand bien même on ne peut pas affirmer que cette équipe développe un rugby merveilleux, pour l'instant, en tout cas, voilà, il reste sur 3 succès. Consécutifs contre Perpignan, Pau et Brive, vous nous direz que c'est les 3 derniers du championnat, mais il n'empêche qu'ils ont mis 50 points à Perpignan et ils ont laissé Fanny le C à Brive et ils sont allés gagner à Pau dans un scénario totalement improbable. Donc attention au Stade français, eux ils arrivent, ils n'ont rien à perdre, ils sont en pleine confiance, ils ont vécu un passage orageux qu'ils ont plutôt bien géré, bien maîtrisé. Franchement, non, au contraire, j'ai plus envie de dire que la pression, elle est sur Montpellier. Hein. Le Stade français, ils n'ont rien à perdre. Et je pense que c'est un vrai match au piège. Et qu'effectivement, si le Stade français venait à gagner au GGL Stadium, là, il va falloir commencer à se poser des questions. Pour l'instant, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop pour Montpellier. Il y a quand même de la ressource humaine. Dans le staff, il y a quand même des gens qui travaillent très bien. Je m'inquiète assez peu pour Montpellier. Je pense qu'il y aura une réaction d'orgueil. Et il ne faudrait pas que le Stade français arrive justement en... un peu trop sûr de lui.
Qu'est-ce qui peut se passer derrière? On attend d'avoir 5, 6, 7, 8 défaites pour faire changer les choses. J'ai l'impression, en vous écoutant, que tout va bien à Montpellier, c'est juste passager et ça va repartir de l'avant.
Ah oui, mais toi, tu veux virer l'entraîneur, le président?
Non, je ne veux pas virer l'entraîneur. Je veux que...
les joueurs...
Eh les gars, on ne peut pas dire qu'une équipe qui est 11e, qui virait sur 4 défaites d'affilée, tout va bien, c'est génial, ça va repartir comme avant.
Est-ce que ça vaut le coup de virer tout le monde?
Tu as raison et le manager Philippe Saint-André a cette formule que j'aime bien. Il dit que tant qu'il n'a pas été conforté dans son poste par le président, il ne fait pas ses valises. Mais que le jour où ça arrive, il dit à son épouse, attention, on va déménager, il faut faire les valises. Après, où tu as raison, c'est qu'on le voit par le passé, le président Altrad n'est pas homme à laisser 7-8 défaites consécutives sans ne rien faire. On l'a vu par le passé. C'est un club où l'instabilité chez les techniciens, globalement, pas que chez le numéro 1, est presque chronique. Donc là, tu as raison, Adrien, parfaitement. Voilà, on peut pas. Mais pour l'instant, disons que pour l'instant, ils ont bouffé leur joker, en fait. Ils n'en ont plus. C'est-à-dire que le match, et là, je suis d'accord avec Arnaud, parce que le Stade français est le match piège pour eux. Ils ont la pression, ils doivent gagner, ils doivent aussi séduire au niveau du jeu, se rassurer eux aussi au niveau du jeu. Donc, en fait, l'interrogation, elle a une semaine de... Elle vient une semaine trop tôt, Adrien. Voilà.
Et bon, on en parlera rapidement.
Il était impatient, Adrien.
Mais bien sûr, il y a un petit match contre le Stade français qui se profile. Je sais qu'Arnaud, il suit le Stade français. On voulait en parler, on voulait faire tout ça, voilà. On suivra en tout cas, messieurs, ce match contre le Stade français. Si je ne dis pas de bêtises, c'est, je regarde sur mon calendrier, Montpellier, 17h, samedi, 17h contre le Stade français. Eh bien, écoutez, messieurs, ça nous augure d'un super week-end de top 14 avant de se plonger dans le quotidien de l'équipe de France pour cette tournée d'automne. Un petit message aussi d'encouragement pour les filles qui jouent samedi à 5h15, si je ne me trompe pas, contre l'Italie. On sera derrière elles pour espérer un dernier carré dans cette Coupe du Monde féminine.
Leur compétition débute véritablement ce samedi. Il n'y avait pas d'enjeu face à l'Angleterre, c'était une sorte de galop d'équipe, il fallait s'étalonner. Et là, attention à l'Italie, parce que ce n'est pas l'Italie actuelle au niveau masculin. L'équipe féminine d'Italie est sur une bonne vague, c'est la 3e équipe dans le tournoi destination derrière l'Angleterre et la France. Et elles nous ont battus, en match de préparation. Elles ont des arguments. Attention, il ne faut pas prendre ce match, on n'est pas encore en demi-finale.
J'aurais pas dit mieux.
On suivra ça avec attention, messieurs. Merci de votre participation à Arrêt Buffet. Emmanuel, on te libère. Je sais que t'es occupé, tu n'arrêtes pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, suivez le rugby. Ciao.
Merci.
Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.